Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons notre étude de l'Épître aux Romains avec ce chapitre 2 dont nous avons écouté la lecture. Ici, le style de l'apôtre Paul est direct. Il ne fait pas de détour. Il interpelle celui ou celle qui se croit à l'abri du jugement de Dieu contre les pécheurs. La semaine dernière, nous avons vu comment Paul a brossé dans le chapitre 1 le tableau de l'humanité pécheresse rebelle à Dieu. Une humanité inexcusable et donc coupable devant un Dieu saint, bon et qui s'est révélé par ses œuvres dans la création. Une humanité placée sous la colère de Dieu qui livre ses hommes et ses femmes à leurs mauvais penchants et à leurs conséquences. Et le comble de cette rébellion humaine se manifeste lorsque ceux qui pratiquent toutes sortes de péchés et d'injustices approuvent ceux qui font de même. Et tout de suite après ce constat désolant, Paul interpelle « Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » C'est le verset 1 du chapitre 2. Le procès de l'humanité continue dans ce chapitre 2 et nous amène cet après-midi à réfléchir sur nous-mêmes, car devant Dieu, qui d'entre nous est juste en soi ? Et il semble que dans ce chapitre 2, Paul veut abattre toutes les illusions. Illusion de celui ou celle qui se croit juste. Illusion de celui ou celle qui se contente d'écouter sans mettre en pratique. Illusion de celui ou celle qui revendique son appartenance au peuple de Dieu. Et à bien des égards, ce que Paul dit ici doit nous mettre en garde contre l'illusion d'une fausse assurance devant Dieu. Et pour abattre ces illusions, Paul met au cœur de la discussion la perspective du jugement final de Dieu. C'est par rapport à ce jour à venir que dès aujourd'hui, nous devons nous examiner. Que dès aujourd'hui, nous devons régler par conséquent nos actes, notre manière de vivre. Que cet après-midi, nous, vous et moi, nous nous laissions toucher par l'Esprit de Dieu, qui veut désormais nous parler. D'abord, l'illusion de celles et ceux, de celui ou celle qui se croit juste. Il est assez facile de lire la deuxième partie de Romains 1, que nous avons vue la semaine dernière, qui dressait le sombre tableau de l'humanité rebelle à Dieu, et de se dire à soi-même, « Je ne suis pas comme le reste des hommes. » Nous avons pourtant vu, dimanche dernier, qu'aucun d'entre nous ne pourrait prétendre ne pas avoir commis un seul des péchés mentionnés au verset 29 à 31 du chapitre 1. Et je me permets de poser ces questions. Qui parmi nous n'a jamais été plein d'envie ou de soif de posséder ? Qui parmi nous n'a jamais été médisant ou arrogant ou orgueilleux ? Qui n'a jamais fait preuve de rébellion à l'égard de ses parents ? Et je pourrais continuer ces questions tant notre culpabilité en la matière est grande. C'est pourquoi laissons Paul nous dire ces choses. Versets 1 et 2. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Selon les cultures d'Église, nous allons entendre cette règle de vie commune. Il ne faut pas juger les autres. Mais parfois, cela nous arrive de juger les autres. Et si ce n'est pas en parole, c'est en pensée. Et en le faisant, nous nous plaçons d'une certaine manière au-dessus des autres. Et à la manière, d'ailleurs, du pharisien dans la parabole que Jésus raconte en Luc 18. Luc 18, versets 9 à 12. Donc Jésus dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Par rapport à la règle de vie commune dans l'Église, il faudrait préciser qu'on ne juge pas les autres, qu'on ne condamne pas les autres, parce que nous-mêmes, nous sommes en réalité condamnables, à cause des péchés que j'ai mentionnés. Voilà pourquoi nous ne jugeons pas les autres. Un pécheur ne peut donc pas se permettre de juger un autre pécheur, de le condamner. En réalité, le jugement appartient à Dieu seul qui est juste. Seul Dieu est en mesure d'évaluer, de juger celles et ceux qui s'écartent de sa volonté, de sa loi, de ses commandements. Un pécheur ne peut pas se permettre de juger un autre pécheur. Et en fait, l'exercice est difficile. Surtout, peut-être en particulier pour ceux qui enseignent. L'exercice est difficile. Il faut dénoncer le mal, oui, mais sans se placer au-dessus des autres. Et il me semble que ça, c'est difficile. De dénoncer le mal que l'on peut voir chez les autres sans se placer au-dessus d'eux. Sans penser que nous sommes meilleurs qu'eux. Écoutons encore, verset 3. « Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude ? » Voici l'illusion qui est dénoncée. Se croire suffisamment juste, parce que les autres sont pires de toute façon, se croire suffisamment juste pour échapper au jugement de Dieu. Voilà l'illusion dénoncée. Le Seigneur approuverait-il une personne qui commet le mal ? Absolument pas. Celui ou celle qui se croit juste devrait plutôt reconnaître que dans sa patience, dans sa bonté, dans sa générosité, Dieu attend de lui ou d'elle qu'il se repente, qu'il change d'attitude. La repentance, voilà l'attitude appropriée pour un pécheur devant Dieu. Et cette repentance n'a pas lieu une fois pour toutes quand nous avons demandé pardon pour nos péchés au début de notre vie chrétienne. Puisque nous continuons de pécher, la repentance est continuelle. Dans la parabole que je mentionnais tout à l'heure, je n'ai pas lu la partie où le collecteur d'impôts est en train de prier. Luc 18, verset 13, le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur ». Combien de fois par jour reconnaissons-nous nous être écartés de la volonté de Dieu ? Est-ce qu'il nous arrive de nous reprendre et de renoncer à ce qui est clairement un péché devant Dieu ? Nous arrive-t-il d'être sincèrement désolés devant Dieu car nous lui avons désobéi volontairement ? Est-ce que notre cœur repentant est toujours disposé à ne plus recommencer ? Voilà autant de questions pour faire un état des lieux de notre cœur et de la direction que prend notre vie en ce moment. Est-ce que nous sommes sincèrement désolés ? Il est terrible le sort de celui ou celle qui ne se repent jamais, qui n'est jamais prêt à reconnaître sincèrement les offenses qu'il commet contre Dieu et qui ne cherche pas à changer d'attitude. Il est terrible le sort de celui ou celle qui agit de cette manière-là. Écoutez ces versets, verset 5. « Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. » Ou encore le verset 8. « Il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. » Ou encore le verset 9, « La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. » Par contraste, celui ou celle qui prend une toute autre direction, qui recherche le bien sous toutes ses formes, qui recherche ce qui plaît à Dieu, étant toujours dans une démarche de repentance, cette personne-là reçoit une promesse incroyable dans notre texte. Regardez le verset 7. « À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. » Ou encore le verset 10. « La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. » Il est évident, d'après le verset 6 et tout l'enseignement de l'Ancien Testament déjà, que Dieu nous jugera selon nos actes, selon ce que nous aurons fait ou omis de faire. Et c'est dire l'importance de ne pas négliger aujourd'hui notre manière d'être, notre manière de vivre, notre manière de penser. Sommes-nous de ces personnes qui persévèrent à faire le bien, qui recherchent la gloire, non celle de ce monde, mais celle que nous aurons avec Dieu? Est-ce que nous recherchons la gloire avec Dieu? Dans cette même lettre, Romains chapitre 8, versets 17 à 18, « Or si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Où est-ce que nous nous situons ces temps-ci? Du côté de celles et ceux qui se repentent et qui continuent de marcher avec l'aide de Dieu dans l'obéissance à ses commandements? Ou bien du côté de celles et ceux qui préfèrent commettre l'injustice sans avoir l'intention sincère de changer? Prenons juste quelques instants pour examiner où nous en sommes avant de poursuivre. La deuxième illusion que nous avons ici dans ce texte et qui est dénoncée par Paul, c'est l'illusion de celui ou celle qui se contente d'écouter sans mettre en pratique. Combien de prédications avons-nous écoutées dans notre vie? Combien de fois avons-nous lu la Bible dans notre vie? Et combien de fois, après avoir été exposés à la parole de Dieu, avons-nous mis en application ce que nous avons entendu? À mon avis, parce que c'est mon cas, trop peu de fois. Il nous est bien plus facile d'emmagasiner des connaissances sur Dieu, sur la Bible, sur la vie chrétienne. Parce que pour un certain nombre d'entre nous, nous avons été exposés à la parole depuis notre plus tendre enfance. Or, écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique n'a pas grande valeur aux yeux de Dieu. Et c'est ce que nous lisons dans les propos de Paul, versets 12 et 13. « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. » De quoi l'apôtre parle-t-il? Nous reconnaissons ici deux groupes. Celui des non-juifs, c'est-à-dire ceux qui ont péché sans la loi, comprenez la loi de Dieu, révélée au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Et puis le groupe des Juifs, ce sont ceux qui ont péché sous la loi, en connaissance de cause, en connaissant la loi de Dieu. Et évidemment, Dieu tient compte de la différence qui existait entre ces deux groupes, qui n'avaient pas reçu une même révélation. Mais pour tous ceux qui pêchent, qu'ils soient juifs ou non, Dieu a le même verdict de condamnation, qu'ils aient eu la loi ou non. Et c'est là que celui qui a la loi, c'est-à-dire le juif, pourrait se bercer d'illusions. Comme si le fait de posséder cette loi pouvait le protéger du jugement divin. Et pourtant, l'affirmation est très claire au verset 13. Vous le voyez comme moi. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. On pourrait le transposer aux exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Ce ne sont pas ceux qui écoutent des prédications ou qui lisent la Bible qui sont justes devant Dieu. C'est une illusion de le penser. Une erreur au sujet des attentes de Dieu à notre égard. Ce qui importe pour notre Dieu, c'est la suite du verset 13. Ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Bien sûr, sorti de son contexte, ce verset semble contredire ce que Paul dit ailleurs, en déclarant par exemple en Galates 2, verset 16, « Nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. » Sommes-nous alors déclarés justes par les œuvres ou par la foi? D'un côté, il faut dire par la foi, car c'est en mettant notre confiance en ce que Christ a accompli pour nous, par sa vie parfaite, par sa mort à la croix et par sa résurrection, que nous sommes justifiés devant Dieu. De l'autre côté, il faut dire les deux. Nous sommes déclarés justes par la foi et par les œuvres qui en découlent. Selon l'enseignement biblique, il nous est en fait impossible de détacher la foi et les œuvres. Et nous connaissons bien ce verset dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 17. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte. Vous connaissez ce verset. Une foi qui ne s'accompagne pas d'œuvres, qui ne s'accompagne pas de changements dans la vie, de mise en pratique de la loi de Dieu, est morte, sans valeur. Et la personne qui a une telle foi morte se trouve dans l'illusion de croire qu'elle sera sauvée. Donc Paul ne se contredit pas. Il est toujours dans cette logique d'amener celui ou celle qui se croit juste à se remettre en question. Tu n'es pas juste, je ne suis pas juste. Les versets 14 et 15 sont réputés difficiles, sujets à des interprétations diverses. Je les relis. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent et les défendent tour à tour. Il semble quand même que nous pouvons comprendre que Paul parle ici des non-juifs qui font parfois ce qui est bien, alors même que la loi de Dieu ne leur a pas été clairement révélée, comme pour les juifs. Paul avance qu'il y a quelque chose dans leur cœur qui est comme une trace de la loi de Dieu. Et d'un certain côté, nous le voyons aussi chez les non-croyants. Il y a une notion du bien et du mal. Nous constatons aussi que certains se sentent accusés par leur conscience, alors même qu'ils ignorent tout de la volonté de Dieu, de sa loi. Et cela nous rappelle que tout être humain, créé à l'image de Dieu, conserve malgré le péché quelque chose de ce qui vient de Dieu. D'une certaine manière, comme nous l'avons vu la semaine dernière, tout être humain connaît Dieu, mais d'une manière déformée, ou en cherchant à étouffer la vérité. Ainsi, d'une certaine manière, tout être humain a aussi une conscience morale, mais déformée à cause du péché. Je relève aussi cette idée que j'ai entendue lors du cours que nous avions à l'Institut biblique de Nogent sur l'Épître aux Romains. L'homme n'invente pas, ne crée pas une autre loi à côté de celle de Dieu. L'homme n'est pas capable de créer une loi à côté de celle de Dieu. En réalité, il ne fait que corrompre celle de Dieu. Pour le dire autrement, il n'y a qu'une seule loi valide dans tout l'univers, et c'est celle de Dieu. Et c'est en fonction de cette loi de Dieu que tout être humain sera jugé. Au jugement dernier, Dieu ne fera pas intervenir le code pénal français ou celui d'un autre pays. Dieu a déjà sa loi qu'il a donnée aux hommes. Égare à celui ou celle qui ne l'applique pas. Rien n'échappera au jugement véridique de Dieu. Nous le voyons au verset 16. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Nous voilà prévenus. Et comme Paul l'a dit précédemment au verset 11, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il reste une troisième illusion à abattre. L'illusion de celui ou celle qui revendique son appartenance au peuple de Dieu. Toi qui te donnes le nom de chrétien, qui aime aller à l'église tous les dimanches, qui est fier d'avoir grandi dans une famille chrétienne, qui connaît bien ce que Dieu dit dans la Bible, qui l'enseigne même aux enfants et qui pourtant ne vit pas ce que tu enseignes. C'est à peu près la manière dont nous pourrions transposer les versets 17 à 24 dans le contexte d'aujourd'hui. À l'époque, c'était le juif que Paul visait. Il sait très bien de quoi il parle puisqu'il a lui-même grandi avec cette instruction. Et si nous comparons le juif et le non-juif, il est indéniable que d'un point de vue historique et selon le libre choix de Dieu, le juif a plusieurs avantages. Il fait partie d'un peuple qui a reçu directement de Dieu sa loi et sa vocation d'être une lumière parmi les nations. Écoutez plutôt ce que nous lisons dans le Deutéronome, Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 6. « Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles, comme l'Éternel mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront « Cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. » Donc, à bien des égards, le peuple d'Israël avait des avantages sur les autres nations. Mais voilà ce que Paul reproche à certains juifs, en tout cas, peut-être pas à tous, mais à certains. Ils enseignent la loi de Dieu par laquelle ils ont été éclairés sur ce qui est bien, sur ce qui est juste aux yeux de Dieu, mais ils ne font pas eux-mêmes ce qu'ils enseignent. En un mot, Paul dénonce l'hypocrisie de certains de ses compatriotes. Verset 21, « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. » Certains ont compris cette dernière allusion en référence au commerce que certains juifs faisaient avec des objets de temples païens. La fierté d'être juif, d'être membre du peuple élu, constitue un piège terrible et aveuglant. Et il en est de même pour celles et ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne, qui se réclament de la foi chrétienne par tradition ou par éducation. Que sert-il d'enseigner ce que Dieu dit dans sa parole et pourtant de continuer à lui désobéir? Que sert-il de faire la morale à ses enfants si on montre sous leurs yeux l'exemple d'une vie qui déplaît à Dieu? Pour celui ou celle qui est si fier de son appartenance au peuple de Dieu, la dégringolade est grande. Et Paul n'a pas d'autre mot que ceci au verset 23 et 24. « Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. » Et l'apôtre s'attaque aussi à un autre sujet de fierté pour les Juifs. La circoncision, signe pour le peuple d'Israël de son alliance avec Dieu, signe qui le distingue des autres nations, des incirconcis. Mais de nouveau, à quoi bon avoir la circoncision d'un côté et déshonorer Dieu de l'autre? À quoi bon avoir les marques d'un chrétien, comme le fait de venir à l'église, d'avoir été baptisé, de porter une croix autour du cou, si la loi de Dieu n'est pas respectée dans notre vie? Là aussi, il y a une illusion à démasquer. Parce que porter de telles marques ne nous fera pas échapper au jugement de Dieu. Et nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Ce qui compte pour Dieu, c'est qu'on suive ses commandements, qu'on les mette en pratique dans notre vie. Et Paul porte un coup fort à ce sujet de fierté de la circoncision. Regardez les versets 27 et 28. « Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement ne te condamnera-t-il pas, toi, qui la transgresses tout en ayant la loi écrite et la circoncision ?» Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Quelle erreur pour le juif de se réfugier dans ces sujets de fierté que sont la loi et la circoncision. Quelle erreur pour nous si nous pensons que garder les apparences du chrétien suffit pour être sauvé. Et il est bien vrai que nous pouvons tomber dans cette illusion que notre présence à l'Église suffit pour faire de nous des chrétiens. Après tout, ce sont les chrétiens qui vont à l'Église. J'ose répondre, nous espérons que ceux qui ne sont pas chrétiens viennent aussi à l'Église. Une autre illusion, tant parfois nous insistons dessus, est de croire que puisque je lis régulièrement la Bible, puisque je prie dans la semaine, puisque j'évangélise autour de moi, cela fait de moi un chrétien. Oui, mais qu'en est-il de la loi de Dieu dans les autres domaines de ta vie ? Est-ce que tu la respectes ? Voilà la terrible illusion que nous pouvons dénoncer, celle de jouer aux chrétiens. Or, devant Dieu, aucune apparence ne peut tenir. Et c'est ce que Paul voulait aussi mettre en évidence ici. Et il termine ainsi ce chapitre 2, verset 29. « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la lettre, la loi écrite. » La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dieu regarde au cœur, à ce qui se passe intérieurement au fond de nous. Es-tu sincèrement chrétien, chrétienne ? Ou fais-tu semblant ? Es-tu circoncis du cœur ? Est-ce que Dieu a effectivement opéré ce changement en toi ? Ce changement accompli par l'Esprit de Dieu qui te pousse à mettre ta confiance en lui, en sa grâce, et à vouloir lui obéir. Seuls celles et ceux qui ont le cœur circoncis sont les véritables juifs, c'est-à-dire les véritables membres du peuple de Dieu. Seuls celles et ceux qui ont le cœur circoncis sont de véritables chrétiens, de véritables enfants de Dieu, de véritables membres de son peuple. Et pour savoir si notre cœur a bien été changé par Dieu, observons la trajectoire de notre vie. Observons ce qui oriente notre vie et ce qui nous fait lever le matin. Et d'après tout ce que Paul a dit dans ce chapitre de Romains 2, si notre cœur a réellement été transformé par l'Esprit Saint, nous devrions voir dans notre vie de la repentance en continu, parce que nous ne nous croyons pas justes. Nous devrions voir une mise en pratique de la parole de Dieu qui ne s'arrête pas à des connaissances ou à de l'écoute. Nous devrions voir une cohérence entre ce que nous pouvons enseigner aux autres et ce que nous vivons nous-mêmes. Où est-ce que nous en sommes cet après-midi ? Mes amis, il est salutaire pour nous de réfléchir sur ces illusions qui sont dénoncées dans notre texte et qui nous menacent chacun. L'intention de Paul dans cette argumentation qui a commencé au chapitre 1 et qui ira jusqu'au chapitre 3 est d'affirmer sans détour que tous les êtres humains, juifs et non-juifs, sont pécheurs et coupables devant Dieu. Penser que ce ne soit pas le cas est bel et bien une illusion. Mais nous avons vu quels étaient les antidotes à ces illusions. La repentance, qui s'exprime par la volonté de changer d'attitude. La persévérance à faire le bien, c'est-à-dire à mettre en pratique la loi de Dieu. Parce que notre vœu le plus cher est d'aimer le Seigneur, de lui plaire et de lui obéir. Et tout cela n'est possible que si Dieu a d'abord circoncis notre cœur, s'il nous a donné un cœur nouveau, s'il nous a régénérés par son esprit. Le jugement de Dieu, le jugement final, sera révélateur. Tout ce qui est au fond de notre cœur sera dévoilé. Paul n'a pas arrêté d'en faire mention. Et tout ce que nous espérons aujourd'hui, si nous avons bien placé notre foi en Christ et si nous sommes en train de persévérer dans l'obéissance, c'est de recevoir de Dieu sa louange, c'est-à-dire son approbation. Amen.